Ce drôle d'entrepreneur canadien s'était montré vraiment très intéressé quand je lui ai raconté que je travaillais pour la famille Grimm.
Pourquoi ça ?
En fait, même s'il était scientifique et PDG d'une entreprise en pharmacologie, cet homme était réellement passionné et même convaincu par l'existence de capacités surhumaines données par des gènes rarissimes. En gros, il voulait essayer d'isoler et d'exploiter des gènes comme celui de la jeunesse éternelle, de la force herculéenne ou encore le gène de l'immortalité.
C'est pour ça que les Grimm l'intéressaient ?
Oui, des enquêtes qu'il avait commandées indiquaient qu'il y avait eu un cas de gène de Nosferatu, ou de vie éternelle si vous voulez, dans leur famille au Moyen-Âge. Et les dossiers médicaux qu'il avait achetés montraient que le jeune Esba en était porteur, même si, en fait, ce gène ne se réveille qu'une fois son possesseur adulte.
Et c'est là qu'on vous a demandé d'agir.
Oui, Flagstaff m'a proposé d'éponger toutes mes dettes si je travaillais pour lui, tout en restant au service des Grimm. Il a juste précisé qu'il ne faudrait pas avoir peur de me mouiller les mains. Je ne savais pas, alors j'ai accepté.
Il vous a commandé un meurtre, c'est bien ça ?
Il voulait pouvoir adopter le jeune Esba pour le disséquer le moment venu. J'ai dû assassiner les parents Grimm. J'ai essayé de rendre ça le moins personnel possible. Je n'avais pas la force de les voir mourir devant moi. Le comble de la lâcheté, je suppose.
Ne soyez pas si dur avec vous-même. Continuez, je vous en prie.
Voilà, je l'avoue, j'ai saboté les freins de leur voiture. Ils devaient aller en ville ce soir-là, et il y avait ce tournant en pente et en tête d'épingle. Je savais qu'ils devaient l'emprunter pour y aller, alors... Seulement... Ensuite... Rien ne s'est passé comme prévu.
Quoi ?
Bienvenue, Esba Grimm. Nous vous attendions.
Ah bon ? Je suis où, là ?
Vous êtes dans le palais royal, demeure de notre régent, en la capitale du royaume lointain sans lettres, à une époque située entre l'Antiquité et le Moyen-Âge.
Quoi ?
Il ne semble au courant de rien. Il va falloir tout lui raconter, je le crains.
Fichtra ! Étonnant de voir un élu aussi peu impliqué. Mais bien sûr que c'est lui, du coup.
Oh, là, là, de quoi ? Élu de qui ? De quand ? Je me suis présenté à aucune élection, moi, et...
Le voyage nous l'a tout cassé. Hola, serre ! Allez préparer un bon grog pour le seigneur Grimm.
Bien, monsieur. J'y cours.
Ça vous fera du bien, vous verrez. Allez, suivez-nous.
Je suis mandaté pour vous conter les aventures d'Esba Grimm lorsqu'il fut aspiré en le monde des histoires sans début. Ce que vous allez entendre est un montage des enregistrements captés par le magnétophone offert par Maître Schneider tout au long de l'aventure de notre ami conteur, même si certains passages de trop mauvaise qualité ont dû être reconstitués à l'aide d'acteurs. Mais soit, dans l'un des petits salons du château, quelques explications vont être données. Y a pas à dire, un peu d'alcool, et ça repart.
Forte joie m'en est de vous voir si vite rétabli, seigneur Grimm.
Et donc, bref, vous dites que je suis ici dans le monde de mes histoires sans début.
Absolument.
Ah, ces vils charcuteurs de la Flagstaff m'auront sans doute injecté quelques merveilleuses drogues pour me rendre docile le temps de me faire leur test. Et tout ceci ne sera probablement qu'hallucination psychomentale ou... je ne sais quoi d'autre, hein. Je ne vois que ça, moi.
Êtes-vous au fait du mythe des muses, seigneur Grimm ?
Et aussi, juste en passant comme ça, c'est qui, lui ? Et puis vous ?
Nous y viendrons après, écoutez-le !
Voyez-vous, en vérité, l'homme ne crée de lui-même que très peu de récits.
Allons donc.
Il existe multitude d'univers parallèles à la Terre, et ce sont les muses, ces êtres espiègles, qui voyagent et soufflent aux oreilles de leurs habitants les épopées des mondes voisins.
Autrement dit, vos histoires improvisées vous étaient en fait contées spirituellement par des muses, Maître Grimm.
Vous dites qu'il existe des esprits de gonzesses qui n'ont que ça à foutre que d'aller commérer dans l'oreille du peuple.
Eh oui.
Bah notez, c'est un peu le principe de la radio, donc au fond... Et au fait, juste en passant, hein, ça tombe bien qu'on parle français dans votre univers, hein, quelle chance, hein. Ah ben j'ai plus de croque.
Quoi qu'il en soit, c'est ce lien qu'elles ont tissé entre vous et ce monde qui est sans doute responsable de votre venue, et par ce fait, de l'accomplissement de la prophétie.
Et...
C'est là qu'on en vient à mon ami et moi.
Il était temps.
Sir Gustave Chambrol n'est autre que le scribe attitré du régent, et je suis pour ma part Gonzague, le ministre des prophéties.
Comprends pas.
Notre régent, élu comme tel après que notre bon roi Clion Ier ait disparu, est un dirigeant très en avance sur son temps.
C'est-à-dire que lorsqu'il parle, il dit des choses qui n'auront de sens que dans l'avenir.
Quoi ?
Voyez-vous, les phrases qu'il dit dans le présent sont ses interventions dans des conversations qui n'auront lieu qu'entre un jour et trois mois après qu'elles aient été dites.
Le scribe est donc chargé de toutes les noter et moi de savoir quoi en faire au bon moment, voyez-vous.
Ah, je vois.
Or, Seigneur Grimm, le régent a parlé de vous il y a quelques semaines, et à présent, vous voilà.
Il va falloir compléter sa conversation d'alors avec vos réponses. Suivez-nous, vous allez rencontrer le régent.
Plus tard, à l'entrée des appartements du régent.
Nous y voici, vous êtes prêts ? Annoncez-nous, soldat.
Vas-y, va, comment tu me parles ? Qui t'es d'abord ?
Juste un ministre.
Oh, vas-y, va, c'est bon, hein, putain. Ah, Siro, y'a du monde ! Putain, vas-y, quoi.
Mais on me demande de régner, de guerroyer et de vaincre.
Je dois comprendre quoi, là, moi ?
Ne faites pas attention, le régent doit encore sans doute parler de batailles à venir dans une guerre future.
Nous avons conquis l'île.
Ouais, faut voir. Des fois, après, on comprend que c'était que des parties de stratégo.
Nous sommes implantés à l'ouest et nos positions sont solides.
Bon, ministre, faites votre travail. Je dois, pour ma part, noter toutes ces nouvelles phrases.
Bien. Si j'en crois les paroles transcrites dans ce recueil à la date du 12 juillet dernier, il semblerait que vous soyez venu en ce monde pour nous sauver du chaos, Maître Grimm.
Quoi ? Moi ? Sauver un royaume du chaos ?
Oui. Comprenons-nous, la princesse, héritière légitime du trône, celle-là même qui, il y a 10 ans, avait trahi son père, notre roi, et ce qui l'avait d'ailleurs précipité dans le coma...
Ouais, je sais tout ça, eh bien.
Elle est soignée en un hospice à Voisinia, la ville voisine. Et les médecins sont formels, elle manifeste depuis quelques jours tous les signes d'un réveil imminent.
Ah, et vous voulez pas qu'elle prenne le pouvoir ?
Non, si elle venait à régner, ses ambitions démesurées précipiteraient notre paisible royaume dans la destruction.
Et puis vous savez, notre régent, on a fini par s'y attacher.
J'imagine que c'est pratique son don là.
Oui, le royaume n'a jamais été aussi prospère et paisible.
Oh, si va, puis une gonzesse au pouvoir, nique sa race, quoi.
Mais vous savez, j'ai pas grand-chose d'un héros, hein. Je suis plus du genre à violer la veuve et à manger l'orphelin. Voire l'inverse, alors...
Seigneur Grimm, vous ne comprenez pas. Nous savons votre propension pour le mal. Or, un régicide est un crime innommable dans notre monde, et ce, quel que soit le souverain. Donc, personne ne veut s'y coller, et c'est pour ça que vous êtes l'élu. C'est vous qui assassinerez la princesse.
La situation, bien que plus claire, n'en reste pas moins délicate.
Et j'y gagne quoi, moi, à part le merveilleux plaisir du meurtre ?
Votre mission accomplie, nous vous renverrons en votre foyer, dans votre dimension.
Chez moi donc ? Pas dans la cellule de la Flagstaff ? Vous sauriez vraiment faire ça ?
Tout à fait.
Ah ouais, tiens, bah du coup, ça m'a l'air pas mal.
Alors c'est dit, hâtons-nous ! La ville voisine est à un jour de marche, et il ne faut pas traîner.
Bonne route, moi je reste ici. J'ai des copies à terminer.
Je vous accompagnerai, Sir Grimm. Et vous, soldat, puisque vous avez semblé si concerné tout à l'heure, vous viendrez aussi.
Oh, Ziva, elle est trop pas cool, j'ai pas envie de chez vous, moi. Fais cheuiller.
Cheuiller ?
Ouais, c'est Yéchant Verlan, il faut être un petit peu un jour, Ziva, toi.
Les quelques semaines à venir seront décisives.
Le groupe se retrouva peu après, armes et bagages rassemblés, au dehors du château, juste devant la grande porte, et prêt pour le départ. Quand soudain...
Bien, nous avons tout, nous sommes prêts à partir.
Oh, c'est vent de mer, pas encore cette chemise. Bonjour, je viens avec vous.
Qui c'est ?
Cette demoiselle, Seigneur Grimm, est Uterine, la fille de notre régent.
Ah bah, elle est moche.
Je viens avec vous d'abord, je suis un personnage entièrement fabriqué pour convaincre les spectateurs. Et peut tout à fait égaler, si ce n'est même surpasser un homme en situation de danger.
Mais d'où tenez-vous cette armure, utérine?
J'ai écouté votre conversation avec mon père depuis derrière une colonne. Et dès que j'ai su pour cette mission, j'ai été prise d'une envie d'aventure, alors j'ai directement ordonné qu'on me la fasse forger. Et me voilà! Alors je viens!
J'y connais rien, hein, mais c'est pas supposé prendre des semaines pour forger une armure sur mesure.
Bon, ouais, putain!
Mais enfin, utérine, nous aurons probablement à affronter la garde personnelle de la princesse. Il est déjà étonnant que vous puissiez porter une armure qui pèse deux fois votre poids. Alors comment pourriez-vous brandir l'épée à votre ceinture en plus de tout ça,
Comment il peut dire ça? Personne connaît mon poids d'abord.
Ben c'est que vous êtes toute maigre, hein, et vous dépassez pas le 1m30.
Et puis, vous êtes une demoiselle de château, vous n'avez jamais manié l'épée ou eu d'activité physique. Comment escomptez-vous, avec vos petits muscles de jeune fille, tuer de lourds guerriers professionnels et surentraînés qui ont survécu à plusieurs guerres, hein?
Ouais, on sait plus. Je suis une gentille, et les gentilles gagnent parce que c'est comme ça. Hollywood a dit que c'est possible, alors ça l'est, point. Je peux tout faire comme un homme, même que je me suis fait greffer du poil sur la poitrine. Et la semaine prochaine, j'ai une greffe de pénis de programmée. Alors vous verrez bien, je serai tout comme un homme, tout comme vous. Ce sera l'égalité des sexes.
Oui, dites, ministre, je peux vous parler?
Oui, allons là-bas.
Dites, c'est vrai cette histoire de tout à l'heure, là, avec la garde personnelle de la princesse, tout ça?
Aux dernières nouvelles, oui, les 4 soldats que son père avait nommés comme garde rapprochée de sa fille lui sont restés fidèles, malgré son accident.
Vous réalisez que, bon, sans être plus lâche que la moyenne, je ne suis, disons, pas particulièrement porté sur les activités pugilistiques en général, hein. Et c'est sans vouloir vous vexer, mais vous me semblez vous-même plus habitué à manipuler des parchemins que des épées, hein.
Ma foi, oui. J'ai d'ailleurs une maîtrise en lettres qui...
Donc, en somme, seul soldat à l'expérience du combat.
Oui, il a chassé de nombreux chiens errants des jardins du château en son temps.
D'accord, on n'est pas dans la merde.
Qu'insinuez-vous? Voulez-vous dire que nous nous trompons et qu'il faut emmener Utérine, que nos préjugés sont ridicules et que cette brave fillette, bien que faible en apparence, saura faire ses preuves et nous éblouir par son courage et sa vaillance en nous sauvant la mise au moment du combat?
Non. Mais par contre, ça pourrait être intéressant de s'en servir pour distraire les gardes.
Les distraire? Mais le répertoire d'histoires drôles d'Utérine est assez limité, vous savez.
Vous comprenez? Une petite jeune fille, de gros gardes virils, à peu près toujours en manque.
Oh, je vois. Mais le régent ne nous pardonnera pas qu'il arrive quelque chose à sa fille.
Pensez-vous, s'il avait dû vous engueuler pour ça, il l'aurait fait il y a des semaines, puisqu'il parle à l'avance.
Ah oui, logique.
Et donc, on fait ça?
C'est d'accord. En tout cas, vous êtes fidèle à votre réputation d'être diabolique, Sieur Grimm.
Et ouais, c'est tout un art.
Bien, c'est d'accord. Utérine, vous venez avec nous. En route, tout le monde. Direction Voisinia.
Super! J'y vais, tournez-en le cum.
Nos héros marchèrent tout l'après-midi durant sans rencontrer aucune résistance particulière. Il y eut bien quelques agressions de moustiques lorsqu'ils longèrent les marécages de l'Est, et aussi ce moment choquant où la jeune utérine tenta de pisser debout pour faire comme les hommes et inonda ses bottes avec le jet qu'elle ne pouvait orienter. Et bref, le crépuscule approchant, nos amis trouvèrent judicieux de regarder après un abri pour la nuit.
Oh tiens, il y a une vieille maison là-bas, on pourrait s'y reposer, non?
Bonne idée, je vais voir si c'est ouvert.
Attendez, on ne devrait pas s'approcher. Sur le panneau, là, il y a écrit « Maison hantée ».
Ah bon?
Oui, même si le mot « hanté » est écrit bizarrement.
Ah ouais, tiens, ça aurait été écrit par un pecno, sans doute.
Utérine, n'ouvre pas! Cette maison est hantée, reviens!
Trop tard, elle ouvre la porte.
Oh mon dieu, mais quelles sont ces ombres qui s'agitent à l'intérieur?
Mais sinon, c'est moi qui suis Crisorbi.
Oh mais regardez, Utérine n'a rien. Elle referme la porte et elle revient vers nous.
Utérine, ça va?
Ouais, mais qu'est-ce que vous dites? Elle est pas hantée, cette maison.
Hein, mais... et le panneau?
Hey, vous savez pas lire, c'est une maison hentai.
Oh...
Et donc, ces ombres dedans, c'était des tentacules, et les cris venaient de jeunes japonaises, je suppose.
Ouais, je les ai trouvées plutôt bonnes, d'ailleurs, ces filles.
Finalement, la compagnie remarqua de l'autre côté du panneau une publicité pour une auberge située derrière une colline proche, et dans laquelle nos amis passèrent la nuit.